semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Claude Angély est le rédacteur en chef du Canard Enchaîné, le puissant journal satirique. Avec Stéphanie Meynier, il vient d'écrire un livre sur les dessous de la cohabitation. Boniface Mongomboussa, lui, publie un essai qui rend hommage à la littérature africaine. C'est avec eux que nous revivrons 7 jours d'actualité.
Une semaine en France, en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui à partir de 20h40, temps universel.
RFI, la radio du monde. Médias du monde, Laurent Saloir.
Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la disparition de l'un des intellectuels les plus influents de ces 40 dernières années en France et dans le monde. Pierre Bourdieu est mort aujourd'hui d'un cancer à 71 ans. Son nom vous est peut-être...
Le 23 janvier dernier, la télévision perd un ennemi fidèle en la personne de Pierre Bourdieu. Le professeur au Collège de France, sociologue, intellectuel, fonctionnaire de l'humanité, devient une star des médias en publiant en 1997 un pamphlet rouge de 95 pages sur la télévision, où il dénonce où il dénonce les effets pervers du petit écran, instrument d'oppression et de domination. Pierre Bourdieu, un homme qui se posait vraiment beaucoup de questions.
Pourquoi ça veut dire sincèrement, comment ça se fait que, voilà, comment ça se fait que ça se passe comme ça, voilà, comment ça se fait que ça se passe comme ça dans le monde social et pas autrement.
Le 2 février, le Théâtre de la Colline à Paris rend hommage à Bourdieu suite à la parution dans le Nouvel Observateur daté du 31 janvier de tout un dossier sur la jeunesse en internat du sociologue. Une jeunesse de toute évidence assez difficile, avec des textes que l'auteur aurait accompagnés de la mention « Ne pas faire circuler » et qui ont été publiés dans le magazine. Polémique. Les amis de Bourdieu, sociologues, anthropologues, comédiens, écrivains, ont lu des textes pour leur ami disparu, et notamment le chercheur Jacques Bouvresse, qui revient sur l'affaire du Nouvel Obs.
C'est une occasion supplémentaire de régler, d'une certaine façon, de régler encore plus violemment des comptes avec quelqu'un que fondamentalement on n'aime pas. Et ça prend un côté qui est presque révoltant, je veux dire. La façon dont il est question de lui, je ne parle pas du fait que l'hebdomadaire en question a publié, s'est permis de publier un inédit sans demander la permission à qui que ce soit, sans la demander aux ayants droit de Pierre Bourdieu, contre un avis qu'il avait lui-même donné assez clairement. On ne voulait pas que ce texte soit publié sous cette forme. Et je trouve que la pire des choses a consisté finalement à publier cet inédit dans un contexte qui consiste à essayer d'expliquer en gros tout ce qu'a fait Bourdieu par la jalousie sociale et le ressentiment social. C'est-à-dire en gros ce que fait le Nouvel Observateur consiste à dire, ah, vous voyez, quand on connaît les problèmes que Bourdieu a eus au lycée, les humiliations qu'il a eu à subir, on comprend tout à fait bien les rancœurs qui ont pu ensuite donner naissance à une œuvre comme celle-là. Par conséquent, je considère que de la part du Nouvel Observateur, c'est réellement une mauvaise action.
Et les autres médias qui ont couvert la mort de Pierre Bourdieu?
Les autres médias, c'est un peu plus mitigé, mais enfin, de façon générale, ça pose le même problème, parce qu'il avait été, surtout dans les dernières années, extraordinairement maltraité par la plupart des journaux. Et comme toujours, évidemment, quand les gens sont morts, tout d'un coup, il y a le fait que, comme dit Brassens, les morts sont tous des braves types. Mais enfin, là, c'est un petit peu plus préoccupant, parce qu'il y a certains journaux à qui on aimerait rappeler ce qu'ils étaient capables de publier il n'y a encore pas très longtemps à propos de Bourdieu.
Dernière question, Jacques Bouvresse, on a très peu abordé justement aujourd'hui, lors de cet hommage, ses rapports avec les médias justement, son petit livre sur la télévision notamment, et toute sa critique concernant la télévision qui est venue tardivement dans ses recherches.
Je suis personnellement fondamentalement d'accord avec ce que Bourdieu a dit sur les médias et en particulier sur la télévision.
Et sur les fast thinking notamment,
oui,
ceux qui réfléchissent vite et qui parlent vite.
Alors oui, il y a ce problème du temps, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que les contraintes du milieu font que, à mon avis, il ne peut pas y avoir de compréhension, si vous voulez, entre des gens qui prennent leur temps avant de parler, qui travaillent. Bon,
comme les chercheurs.
Des gens qui sont obligés de faire tout à toute vitesse, de façon approximative. Il n'y aura jamais, à mon avis, d'entente réelle. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Mais ce qui m'inquiète le plus pour le moment, c'est qu'on voit la presse dite sérieuse, en particulier le Nouvel Observateur, fait ce genre de choses. Mais il n'y a pas que lui. Essayer de se dédouaner en disant le vrai danger, c'est la télévision. Il n'y a rien de pire que la télévision. Alors que nous constituons une sorte de dernier rempart contre la télévision. Jean Daniel fait ce genre de numéro, si vous me permettez cette expression, dans le numéro du Nouvel Observateur dont nous parlions. Alors ça, je trouve que c'est une mystification, parce qu'en réalité, je pense que la presse écrite, quoi qu'elle puisse dire, se comporte maintenant d'une façon qui tend de plus en plus à se rapprocher de la télévision. Et donc là, à mon avis, assez souvent, grand tort de s'imaginer qu'elle puisse permettre de faire la leçon à la télévision.
On pardonne à tous ceux qui nous ont offensés. Les morts sont tous des bras petits.
En 1998, Pierre Bourdieu est le rédacteur en chef du dernier numéro de l'année des Inrecuptibles. L'hebdo lui consacre donc un spécial au moment de sa disparition. Sylvain Bourmeau, journaliste aux Inrocs.
Sylvain Bourmeau, les Inrecuptibles rendent hommage à Pierre Bourdieu. Et vous dites que vous défendiez quasiment toujours son travail de chercheur et que vous le faisiez comme vous le faisiez pour les œuvres de musiciens, d'écrivains et de cinéastes.
Oui, c'était pour rappeler que si les combats visibles de Pierre Bourdieu ces dernières années avaient de l'importance pour nous, c'est parce que ils étaient aussi d'une certaine manière menés à la suite d'un travail théorique considérable. C'est-à-dire que une des plus grandes frustrations peut-être de ces dernières années, c'était de voir des gens s'emparer de Bourdieu comme une sorte d'idole, d'intellectuel qui s'engageait, sans véritablement connaître le travail théorique, la réflexion de Pierre Bourdieu. Et pour nous, un certain nombre d'entre nous au journal, les choses sont allées dans en sens inverse. C'est-à-dire que on a d'abord été des grands lecteurs de Bourdieu et on a vu Bourdieu avec peut-être une certaine surprise, un certain étonnement d'ailleurs au début, s'engager sur un certain nombre de combats politiques et sociaux. Parce que c'est pas finalement très loin, il faut se rappeler combien, quand on lisait Pierre Bourdieu, jeune étudiant, je sais pas, dans les années 80, on se disait, mais alors quoi faire? Enfin, je veux dire, puisque effectivement ces mécanismes-là sont à l'œuvre, que peut-on faire? Et dans un premier temps, la lecture de Pierre Bourdieu en a conduit certains à se détourner en quelque sorte de l'action politique. Moi, le premier, je veux dire que je dois probablement à Pierre Bourdieu de ne pas avoir un instant songé à m'engager dans une action militante ou dans une action politique. Il n'y aurait pas eu Pierre Bourdieu, peut-être qu'un jour j'aurais pris une carte dans un parti politique. Et donc, il faut d'abord voir Bourdieu comme ça, c'est-à-dire quelqu'un pour qui l'activité scientifique est à placer au premier plan, histoire de garder une indépendance, une objectivité la plus grande possible. Et puis après, une fois qu'on acquiert cette position-là, toujours être méfiant, toujours être critique à l'égard des organisations, à l'égard de quelles qu'elles soient, y compris les toutes petites organisations. Pierre Bourdieu s'est engagé, mais n'a jamais fait partie de la moindre organisation qu'il ait lui-même créée à des fins extrêmement précises et spécifiques de diffusion, quoi.
Oui, je ne fais pas des leçons pour votre bien, etc. Je n'ai rien à foutre, mais ne vous privez pas de ces ressources intellectuelles, sous prétexte que ça vient d'intellectuels. C'est pas une maladie d'être intellectuel.
Et vous souhaitez, Sylvain Bourmont, rectifier le tir en disant que son écriture n'était pas difficile, pas inaccessible, mais exigeante. Il fallait accepter de prendre le temps de suivre le cours de sa pensée.
Oui, on a coutume de trouver que certains, sans l'avoir lu nécessairement, pensent que Bourdieu est quelqu'un qui est difficile à lire. C'est probablement quelqu'un qui est difficile à lire dans la mesure où il faut du temps pour le lire. Mais c'est pas quelqu'un qui est difficile à lire comme peuvent l'être un certain nombre de philosophes qui se veulent un peu poètes et que moi, j'ai un mal fou à comprendre. Je veux dire que Pierre Bourdieu, tout le monde peut le comprendre à condition d'y passer un peu de temps. On est loin du jargon philosophique.
Et c'est là toute la contradiction avec les médias, justement, qui ont traduit ou qui ont simplifié souvent la pensée de Pierre Bourdieu.
Oui, ça, c'est le problème de la société très médiatisée dans laquelle on vit et qui a besoin de petites phrases, qui a besoin de choses un peu de pitch, comme on dit ici ou là maintenant. Et évidemment, de pitch, le lancement d'un sujet. Pierre Bourdieu était vraiment à l'opposé de ça. C'est-à-dire que certaine temporalité pour présenter les choses. Les gens ont un peu de mal, même ceux qui connaissaient pas bien son travail, aujourd'hui avec les caricatures qu'on peut faire de lui, parce que ils ont plutôt le souvenir de quelqu'un d'extraordinairement curieux, du curieux de ce monde du journalisme qui le fascinait. Je pense que Pierre Bourdieu savait aussi à quel point le journalisme était un mode de connaissance du monde, certes différent de celui du sociologue, et je pense que dans une autre vie, peut-être qu'il aurait pu choisir ce mode de connaissance-là.
Vous parlez de la nouvelle génération, mais c'est pareil. Je veux dire, pour nous, l'an 2000, on entend le bug, on entend, la décroissance du chômage, on entend des termes comme la civilité. C'est des termes pour nous qui sont, mais vraiment, on a l'impression vraiment qu'on est dans une planète, mais 20 000 lieues sous la Terre, quoi, pas sous la mer.
Je ne sais pas trop quoi vous répondre. Je vous demande de ne pas applaudir, parce que la vérité ne se mesure pas à l'applaudimètre. D'accord ?
Bon, ça, vous garderez ça pour la télé. Ça...
Être médiatique, c'est être tous les jours dans les médias. C'est être l'instrument des médias, le serviteur empressé des médias, qui dit dans les médias ce que les médias demandent aux intellectuels médiatiques de dire. C'est-à-dire de ne rien dire, souvent. De parler pour ne rien dire, de parler pour donner des fausses explications, de dire, ah oui, encore une émeute mal fourrée, c'est dire des conneries, bon, avec autorité, avec assurance, etc., et être payé pour ça, être invité pour ça, bon, c'est ça, être médiatique.
En 96, Pierre Bourdieu, qui se méfie comme de la peste de la télévision, accepte l'invitation de Daniel Schneiderman sur la 5e pour l'émission Arrêt sur image, où la télé regarde la télé. Bourdieu en garde un très mauvais souvenir, estimant que sa confiance a été abusée. Il écrit sa colère dans les colonnes du Monde diplomatique. 3 ans plus tard, Daniel Schneiderman publie chez Fayard du journalisme après Bourdieu, un livre qui commence par ces mots. Vous m'avez culpabilisé, Pierre Bourdieu, comme vous avez magistralement réussi à culpabiliser tous mes confrères. Des esclaves inconscients, soumis à l'urgence, au bas appétit du public et à l'argent. Tel est brossé par vous le triste portrait des journalistes d'aujourd'hui. Daniel Schneiderman.
Comme journaliste, je me suis trouvé moi dans une position particulièrement ambiguë qui fait que, ayant choisi personnellement le champ, comme dirait Bourdieu, du journalisme sur le journalisme, puisque c'est ce qu'on fait dans Arrêt sur image depuis 7 ans et c'est ce que je fais un peu dans la chronique du Monde, qui est une chronique sur la télé, au bout d'un certain moment, je me suis trouvé dans une schizophrénie totale, complète, dans une situation inextricable, dont finalement un livre et l'effort de réflexion qu'il impose était le meilleur moyen de sortir. Voilà, ce livre, c'était une tentative de faire le tri sur ce qu'il fallait jeter, ce qu'il fallait garder, ou ce que j'avais envie de jeter et ce que j'avais envie de garder, parce que tout ça est toujours très personnel, dans les attaques contre le journalisme.
Et vous dites que Pierre Bourdieu vous a culpabilisé, c'est très fort, ça touche la sensibilité même de l'homme qui est en vous, de l'homme journaliste qui est en vous.
Ah oui, bah oui, vous savez, c'est un métier impliquant, hein. Moi, en tout cas, je le fais de cette manière-là. On est journaliste 24 heures sur 24. C'est très difficile quand on fait un métier comme ça de séparer l'homme du professionnel. Donc, effectivement, les attaques contre la profession m'ont interpellé personnellement, ouais.
Et les attaques notamment contre l'urgence, la simplification, le suivisme, les présupposés non explicités, la pensée unique, l'audimat et le sensationnalisme, la connivence, le cynisme, l'autocensure. Vous écrivez avec des majuscules et ce sont des critiques épinglées dans le petit livre sur la télévision de Pierre Bourdieu.
Lui comme ça, c'est terrifiant, hein. Lui comme vous venez de le faire, c'est... Non, c'est épouvantable. Bon, et alors évidemment, ce qui est intéressant intellectuellement, c'est... de reconnaître dans ces critiques ce qui est bien fondé et ce qui relève quand même d'une généralisation abusive, et le livre servait un peu à faire ce tri-là. Et la petite malice du livre, la petite astuce, c'est ce qui intellectuellement moi m'a aussi excité à faire ce livre, ça a été d'essayer de montrer qu'un certain nombre de ces reproches pourraient être appliqués à toutes les tentatives de communication. C'est-à-dire que dès que vous parlez à quelqu'un, comme je suis en train de vous parler en ce moment, vous essayez d'être accessible, vous essayez d'être percutant, vous y arrivez ou pas, mais vous essayez d'être bref, vous y arrivez ou pas, je me rends bien compte que je suis trop long là. Donc vous
pouvez faire mieux.
Oui, bah certainement, mais d'ailleurs j'arrête pas de faire mieux tout au long de ma vie. J'essaie d'essayer en tout cas. Bon, donc il y a un certain nombre de ces reproches qui sont adaptables à toutes les tentatives de communication, y compris au discours de Bourdieu lui-même, et c'était ça un peu l'astuce du livre, c'était de montrer que bon, il reproche aux journalistes de faire bref, mais son petit livre rouge, le petit livre rouge qu'il a publié, comme son nom l'indique, était un tout petit livre, très court, très lapidaire, dans lequel à plusieurs reprises on lisait, qui disait « Oh, j'ai pas le temps d'argumenter là-dessus, j'y reviendrai plus tard ». Qu'est-ce qui l'obligeait à y revenir plus tard et pas argumenter sur ce point? Moi, je me souviens de la première fois que j'ai entendu parler du livre de Bourdieu, le fameux petit livre rouge dont on parle, et qui a été lancé, c'est vrai, sans attaché de presse, enfin, on l'imagine, en tout cas, pas d'attaché de presse repérable.
Petit livre intitulé « Sur la télévision ».
Sur la télévision, voilà, qu'il avait auto-édité. Hein, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans un papier, je me souviens très bien, du Journal du Dimanche. Et le Journal du Dimanche avait simplement relevé les différentes attaques contre les entre guillemets faux philosophes qui étaient contenues dans le bouquin de Bourdieu. Et alors le papier du Journal du Dimanche était très court et donc disait oh là là Bourdieu qu'est-ce qu'il met à BHL, qu'est-ce qu'il met à Finkielkraut avec les citations féroces de de Bourdieu, fausses valeurs philosophiques, etc. Bon, qu'est-ce que c'était d'autre, ça, sinon qu'une réduction journalistique terrible d'une pensée elle-même assez réductrice, qui était la pensée de Bourdieu sur les médias. Donc là, la moulinette médiatique, il y était en plein. Et moi, je me souviens d'un de ses livres suivants sur la domination masculine, qui était un livre sur les rapports entre les sexes, dans lequel il avait répondu à une interview de Télérama où il s'attachait longuement à décrypter la sémiologie de la mini-jupe. Alors, je ne sais pas quelle était sa compétence particulière en matière de mini-jupe, mais j'imagine que s'il avait fait ça, c'était aussi pour, à travers cet exemple croustillant de Bourdieu, le grand intellectuel décryptant la mini-jupe, c'était pour amener des gens vers son livre. Donc, qu'est-ce qu'il faisait d'autre que passer à la moulinette médiatique ?
Dans l'état actuel de la situation des femmes, les femmes ont des propriétés qui me sont beaucoup plus sympathiques que celles des hommes. Voilà. Les caractéristiques, elles sont plus modestes, elles sont plus effacées, elles sont plus intuitives, plus attentionnées, elles s'intéressent plus aux autres. Elles ont plus de chances d'être comme ça, toutes choses égales d'ailleurs, qu'un homme.
Voilà. Pour finir, on avait vu ce Pierre Bourdieu, lors de votre émission, très mal à l'aise. Enfin, il parlait très peu, finalement. Il ne sentait pas bien, quoi. On le voyait bien à l'image.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est une des choses, d'ailleurs, qu'on peut revoir en allant voir l'émission sur le site. Là, c'est effectivement ce malaise. Et ce malaise de Bourdieu sur un plateau de télé et se demandant lui-même ostensiblement s'il a bien fait de venir à la télé, puisque c'était un peu le spectacle qu'il offrait. Et c'était même ce mot, d'ailleurs. C'est une image assez forte. Alors, si on est un poil machiavélique, on peut se dire que peut-être qu'il avait prémédité cette image. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'était venu à Arrêt sur Image que pour prouver qu'il ne pouvait rien y dire. Puisqu'effectivement, c'était une situation intenable de venir à la télé pour expliquer qu'on ne peut rien dire à la télé. Alors, d'ailleurs, il expose cette situation intenable sur le plateau. Mais là, on est dans les... Est-ce que ça avait été prémédité ou pas? Prévu ou pas? Est-ce que son naturel a pris le dessus? Est-ce que ses émotions l'ont étouffé? On est dans les profondeurs de l'âme humaine. Fut-elle l'âme d'un professeur au Collège de France?
La notoriété de Pierre Bourdieu avait dépassé les frontières. Le sociologue est étudié dans les universités américaines, japonaises. En Suisse, le quotidien Genevois Le Temps publie « L'homme qui dérange est mort », un article signé Laurent Wolf qui souligne les contradictions du sociologue au sujet des médias. Et aussi, il parle de sa renommée internationale.
Pierre Bourdieu dérangeait notamment aussi les journalistes.
Oui, il dérangeait les journalistes général. Parce qu'il leur avait dit des choses pas très gentilles. Notamment, il leur avait dit que... à l'intérieur de ce qu'on appelle le champ du pouvoir et que d'autre part, il formait une corporation terriblement conformiste qui copiait sur les uns et sur les autres et qui n'allait pas chercher les sujets qui, eux, dérangeraient. Voilà, il a dérangé les journalistes en disant qu'ils n'étaient pas très dérangeants. Ce qu'il a dit sur les journalistes est intéressant et je pense que les journalistes ont toujours intérêt à écouter les critiques, mais finalement, le journal que proposait de faire Bourdieu, c'était sans doute un journal sans lecteurs ou avec trop peu de lecteurs pour avoir sa véritable liberté. C'est-à-dire que Bourdieu était un puritain de l'information et de la science, et l'application de cette attitude, qui est une attitude à la fois scientifique et politique, comme on l'a vu à la fin de sa vie, à mon avis, n'aurait pas donné de grandes chances à un journal de continuer à exister.
Il y a un rêve que Pierre Bourdieu n'a pas eu le temps de réaliser. Sylvain Bourmeau, des Inrecuptibles.
Oui, c'est un projet absolument formidable, un vieux rêve qui est devenu réalité l'espace d'à peine 2 ans, à vrai dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter à quel point là, Bourdieu rejoignait les préoccupations de sociologues de 50 ans auparavant. Je pense à un sociologue américain, Robert Park, qui a été journaliste et sociologue successivement et qui avait imaginé un journal comme ça, un journal qui soit un journal fait à la fois par des journalistes et par des intellectuels, par des chercheurs, et qui soit un journal international. Là, l'idée, c'était de faire un journal européen qui s'appuyait sur, au départ, 5 pays, mais l'idée, c'était d'élargir le cercle. C'était 5 grands journaux, c'était Le Monde, c'était la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'était le Times Literary Supplement en Angleterre, El País en Espagne, un journal italien qui s'appelait L'Indice. Et probablement, Pierre Bourdieu avait vu trop grand, trop vite. Mais je suis persuadé que c'est quelque chose qui finira bien par voir le jour. Je vois pas comment on peut construire l'Europe sans construire un espace public de discussion à l'échelle de l'Europe. Et donc, on a besoin d'inventer ces journaux qui seront les journaux de demain.
Bourdieu est mort, vive les médias. Pierre Bourdieu et les médias, c'était un sujet signé Marie Audran avec Roland Kemner, Laurence Colonne et Laurence Alloir. Merci de nous avoir suivis.